Bonjour et bienvenue sur La Voie Verte, le podcast qui vous accompagne sur le chemin d'une vie plus verte. Nous sommes Julie et Laetitia, les créatrices de ce podcast. Potager, plantes vertes, jardinage urbain, compost, cueillette sauvage. Dans chaque épisode, nous abordons un thème lié au monde végétal avec un ou une invitée. À travers ces interviews, nous vous donnons des conseils pratiques pour prendre soin de vos plantes et explorons ensemble le monde fascinant de la nature vivante. La Voie Verte est le podcast de Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers, que nous avons fondé toutes les deux. Ce magazine papier indépendant est dédié au jardinage, aux plantes et à la nature et sort tous les trimestres. Pour en savoir plus, direction Vert Magazine, veirmagazine.com. Allez hop, c'est parti pour la classe verte!
Bonjour, bonjour, ici Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'une plante que j'adore et qui est bien trop sous-cotée, le pélargonium. Pour savoir enfin comment différencier géranium et pélargonium, quelle variété choisir, comment les planter, les tailler ou les protéger cet hiver, j'accueille Lucie Vial, responsable du secteur horticole à l'Arboretum de Versailles-Chèvreloup, spécialiste des pélargoniums. Bonne écoute à vous! Bonjour Lucie, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voie Verte. Je suis ravie de te retrouver pour parler d'une plante que l'on connaît beaucoup et à la fois qu'on connaît mal, on va le voir ensemble, mais peut-être d'abord te présenter pour expliquer un petit peu où tu travailles et en quoi consiste ton travail, qui est somme toute très intéressant.
Alors bonjour à tous, je me présente, je suis Lucie Vial, je suis responsable des serres horticoles à l'Arboretum de Versailles-Chèvreloup. C'est une annexe du Muséum National d'Histoire Naturelle. Donc, je suis en charge de toute la production florale pour destinée au fleurissement du jardin des plantes. Et en parallèle, je suis également responsable de la collection de pélargonium.
Et voilà, et c'est le pourquoi du comment on t'a invité aujourd'hui, puisqu'on va parler pélargonium et géranium. Alors évidemment, on va commencer peut-être par se demander qu'est-ce qu'un pélargonium, qu'est-ce qu'un géranium ? Parce que dans l'esprit du public, on appelle souvent géranium ce qu'est un pélargonium, mais il existe bien des géraniums, tu vas nous l'expliquer. Et surtout, tu vas peut-être nous renseigner un petit peu sur cette confusion, parce que du coup, on se moque souvent des gens voilà, qui parlent de géranium au lieu de parler pélargonium, mais en fait, il y a quand même une vraie explication scientifique à cette confusion entre les deux espèces, on va dire.
Oui, alors tout à fait. En fait, là, c'est pas deux espèces, mais en fait, c'est deux genres différents. Donc, il y a le genre géranium et le genre pélargonium, qui appartiennent tous les deux à la famille des géraniacées. En fait, à l'époque, ça remonte au XVIIIe siècle, il y a un grand botaniste donc, que tout le monde connaît, Linné, qui a voulu créer donc, la classification des plantes et qui a regroupé dans le même genre géranium les géraniums vivaces et les géraniums africains. Plus tard, un autre botaniste qui s'appelle L'Héritier a souhaité par contre les séparer en genres différents. Et donc de là sont nés les genres géranium, le genre pélargonium et également d'autres genres, érodium, monsonia et sarcocolon qui appartiennent tous à la même famille des géraniacées. Donc c'est un peu compliqué, mais cette confusion du coup perdure depuis bon bout de temps parce qu'initialement elles étaient classées dans le même genre.
Mais voilà. Du coup, le géranium rouge que l'on connaît sur les balcons, dont on va reparler, en fait, c'est le genre pélargonium.
Tout à fait. Alors, je vais bien expliquer la différence, en fait, de ces deux genres. D'une part, je vais parler un petit peu d'étymologie, parce que c'est important pour bien visualiser. Donc, il y a quand même des caractéristiques qui sont vraiment ressemblantes, hein, puisqu'ils appartiennent à la même famille. La description de ces plantes a été faite notamment sur la forme des fruits, c'est-à-dire avant que les graines se forment. La particularité chez ces plantes, c'est que les fruits par contre ressemblent à des becs d'oiseaux. Géranium, ça vient du grec géranos, qui signifie bec de grue, et pélargonium vient du grec pélargos, qui signifie bec de cigogne. Donc c'est déjà quelque chose qu'ils ont un petit peu en commun. Mais la différence reste déjà l'origine géographique. Les géraniums, en fait, les vrais géraniums, ce sont des plantes vivaces qui sont originaires d'Europe. Donc on les retrouve naturellement en Europe. Contrairement aux pélargoniums qui, eux, sont originaires d'Afrique du Sud. Donc, les pélargoniums seront des plantes vivaces, mais non rustiques, en France, je veux dire.
Ça, on en reparlera du coup, c'est une importance, ouais.
Mais ça, c'est vraiment la grande différence. Et d'autre part, il y a une grande différence au niveau de la forme des fleurs. Les géraniums, eux, ont des fleurs qui sont régulières. Ils ont 5 pétales qui sont vraiment identiques. Et par contre, le pélargonium, lui, a 5 pétales, mais des pétales qui sont différents. Et il y a 2 pétales vers le haut qui sont un petit peu plus gros que les 3 pétales inférieurs.
D'accord. Ah, comme ça, on peut les reconnaître.
Voilà. Non, mais alors après, il faut vraiment se baser sur des espèces botaniques et non sur des cultivars, les cultivars étant tellement modifiés de leur origine naturelle. Voilà. Ils sont parfois à fleurs doubles et là, ça peut être très trompeur pour s'y retrouver.
D'accord. Mais on en va revenir aussi parce que du coup, parmi les pélargoniums, il y a en réalité énormément de variétés, et même parmi les géraniums. Alors, on va essayer de prendre les bons noms de bons genres, évidemment, de parler de pélargonium pour les pélargoniums et de géranium pour les géraniums. Mais en préparant un peu l'épisode, tu m'expliquais qu'il y avait donc des variétés qui étaient sauvages, botaniques, horticoles, il y en a qui sont odorants, il y en a qui peuvent retomber. Est-ce qu'on arrive à avoir des caractéristiques pour les regrouper un peu et savoir, voilà, moi je voudrais un pélargonium retombant très odorant, je sais vers lesquels il faut aller, etc.
Donc là, on va parler donc des pélargoniums. Alors effectivement, il existe des espèces botaniques, comme je l'ai dit, donc qui sont originaires d'Afrique du Sud. Alors là, par contre, ce sont vraiment les espèces botaniques, ce sont des plantes qu'on retrouvera pas forcément facilement dans le commerce, mais plutôt dans des pépinières un petit peu spécialisées. Et ça va être des plantes vraiment particulières, parce qu'elles sont adaptées à leur climat d'origine, donc à des milieux désertiques. On va retrouver des plantes avec des réserves assez importantes au niveau de leurs tiges ou de leurs racines. Ça peut être des plantes avec des rhizomes tubéreux un petit peu. Il en existe à peu près 250 espèces
botaniques,
ouais. Ouais. Principalement originaires d'Afrique du Sud, de la Namibie en passant par le Cap de Bonne-Espérance et jusqu'à à peu près Port-Elisabeth.
D'accord, et ça, c'est des variétés qui n'ont pas du tout été modifiées, du coup, qui ont vraiment les caractéristiques de
leur milieu. Voilà, là, c'est vraiment des espèces naturelles qu'on va le retrouver à l'état spontané en Afrique du Sud.
Ok, donc nous, on plante plutôt des variétés horticoles, en réalité, chez nous.
Tout à fait. Alors, chez nous, on va retrouver plus facilement donc, des variétés horticoles qui sont issues quand même de ces fameuses espèces botaniques, hein, mais qui seront beaucoup plus adaptées au fleurissement. Et le fait d'avoir créé des variétés, nous avons forcé sur le résultat que l'on souhaite, c'est-à-dire avoir une floraison très importante, des coloris différents, des formes de fleurs assez grosses par rapport à ce qu'on peut trouver naturellement, ou souvent ce sont des toutes petites fleurs assez discrètes. Et donc il existe des pélargoniums à port droit qu'on appelle pélargonium zonal ou géranium, c'est vrai, on le dit couramment, géranium zonal. Et nous avons également tout ce qui est pélargonium à port retombant qu'on appelle communément les géraniums lierres.
D'accord, c'est ce qu'on retrouve beaucoup sur les balcons, non ? Il me semble en Alsace, tout ça.
Oui, ils sont vraiment, voilà, là. La caractéristique d'être très florifère et résistant.
Est-ce qu'ils sont tous odorants ? Ils ont tous une odeur caractéristique du géranium ?
Ils ont tous un petit peu une odeur, certes, mais il existe aussi des espèces et cultivars qui sont particulièrement odorants, mais par contre qui vont très peu fleurir, où la fleur sera vraiment insignifiante. Et là, donc en fait, ce ne sont pas les fleurs qui sont odorantes, c'est le feuillage.
D'accord.
Ah, donc ça, c'est important de le savoir aussi. Parfois, voilà, il suffit pour sentir de froisser le feuillage et là, l'odeur se dégage parce qu'en fait, le parfum, il provient de petits poils sécréteurs qui se trouvent sur les feuilles que l'on appelle les trichomes glanduleux.
D'accord, donc l'odeur de géranium qu'on connaît, peut-être que ceux qui nous écoutent connaissent, hein, il y a une huile essentielle de géranium, il y a quand même une odeur qu'on connaît associée au géranium, c'est plus les feuilles que les fleurs en fait.
Tout à fait, ce sont les feuilles. Et donc, il est également, et ça c'est vraiment intéressant, utilisé en parfumerie Puisqu'au niveau du rendement, voilà, là, ce ne sont pas les fleurs que l'on ramasse pour faire la distillation et obtenir l'huile essentielle, mais le feuillage. Et donc, on peut avoir un très bon rendement par rapport, par exemple, à la rose. Il existe des pélargoniums qui imitent et qui se rapprochent du parfum de rose, notamment le pélargonium capitatum. Il est cultivé à l'île de la Réunion à grande échelle pour l'huile essentielle et en parfumerie.
Du coup, j'anticipe un peu une question, mais on a beaucoup vu cet été des pélargoniums dits anti-moustiques, parce que, voilà, un peu à l'odeur de citronnelle, en fait, ils ont une odeur très particulière. Est-ce qu'il y a vraiment des pélargoniums comme ça qui peuvent repousser certains insectes? Et à l'inverse, évidemment, ce qui nous intéresse plus chez Vert Magazine, est-ce qu'il y a des pélargoniums qui sont mellifères et qui vont du coup participer à attirer les insectes chez soi?
Alors, pour les pélargoniums anti-moustiques, j'avoue que je suis pas certaine à 100% qu'il y ait vraiment un...
Moi, j'ai testé chez moi, ça n'a rien marché, ça n'a rien fait. Mais bon...
Honnêtement, je ne crois pas. C'est peut-être plus un argument commercial. Ceci dit, c'est toujours agréable d'avoir une plante qui sent la citronnelle. Hein, ça c'est... Mais je ne sais pas s'il y a vraiment un réel impact. Je doute un petit peu. Et concernant les plantes mellifères, alors chez le pélargonium, ça va attirer effectivement les petits insectes. Mais je pense que c'est plus pour le coup les vrais géraniums qui seront encore plus mellifères que les pélargoniums.
Ok, m'en retiens alors. Alors notre variété un peu connue, en tout cas sur les balcons, on voit beaucoup de pélargonium, donc rouge on a dit, on verra qu'il y a maintenant beaucoup d'autres couleurs, mais vous du coup vous cultivez plein d'autres variétés je suppose, vous pouvez nous raconter un peu?
Oui, alors nous à Chèvreloup on a la chance d'avoir une très belle collection, plus de 500 cultivars, et effectivement on est loin de s'imaginer toute la diversité qu'il peut y avoir. Moi, au début, quand je suis arrivée à l'arboretum de Chèvreloup, je pensais qu'il y avait effectivement le pélargonium rouge, et je pensais pas qu'il y avait toute cette diversité. Donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement les coloris. On peut avoir des roses vifs, des fleurs doubles. Il y a une variété qui me plaît énormément, en tout cas, qui s'appelle pélargonium apple blossom. Et là, les fleurs ressemblent à des fleurs de rose, des petites roses, et c'est magnifique. Et ce qui est intéressant également, c'est les feuillages panachés. J'ai des pélargoniums, par exemple, il y en a un qui s'appelle Planète Le Grunge, qui ressemble un petit peu à une chair. Donc, il a un feuillage un peu jaune-rouge. C'est vraiment intéressant aussi d'avoir ce côté feuillage décoratif. Et nous avons aussi tout un groupe qui s'appelle les pélargoniums stellar. Donc là, ce sont des variétés qui ont été créées et qui ont la caractéristique d'avoir des pétales un petit peu en forme d'étoile. Et le feuillage aussi est très découpé. Donc c'est vraiment très original et on est loin du fameux pélargonium rouge que tout le monde connaît. Il y a vraiment une très grande diversité.
Est-ce qu'il y a des variétés qu'on peut installer chez nous ou c'est des variétés qui se cultivent plutôt dans les serres et à votre niveau professionnel, on va dire, mais est-ce qu'il y a des variétés plus intéressantes qu'on peut peut-être retrouver, nous, en pépinière et qui peuvent varier? Alors, je précise qu'on n'a rien contre le pélargonium rouge, mais pour varier un petit peu le visuel.
Alors, en fait, ici, il existe énormément de variétés différentes. Après, il faut trouver l'endroit où les acheter, mais dès qu'on est un petit peu dans des choses qui sortent de l'ordinaire, on va pas forcément les trouver facilement en jardinerie. Mais si vous avez l'occasion d'aller dans des fêtes des plantes où vous pouvez retrouver des professionnels spécialisés dans les pélargoniums, alors là, vous trouverez des fantaisies et des choses extraordinaires, hein. Mais c'est pas forcément en jardinerie. Donc je connais un pépiniériste qui est spécialisé dans le pélargonium, qui s'appelle Yannick Fourdet, et qui expose et qui vend notamment à la fête des plantes de Saint-Jean-de-Beauregard. Je sais pas si vous connaissez certainement. C'est une des plus grosses fêtes des plantes en France. Donc il y est toujours au printemps. Et là, je vous conseille d'aller voir. vous trouverez des nouveautés, des choses qui sortent de l'ordinaire.
Ah bah super, très bon conseil. Alors du coup, on va parler un petit peu de cette image, de cette mauvaise image presque des pélargoniums, parce qu'en réalité, c'est un... Alors, j'ai pas trouvé le chiffre, mais il me semblait l'avoir vu du nombre de pélargoniums qui sont vendus chaque année, qui est quand même très important. C'est quand même une plante encore très populaire. Mais dans l'esprit, en tout cas, on va dire peut-être des jardiniers plus jeunes, c'est vraiment une plante qui a l'image voilà, du balcon de mamie avec ses géraniums aux fleurs rouges et qui n'était peut-être pas voilà, très, très originale comme plein d'autres fleurs qui ont eu un petit peu plus la cote, on va dire, ces dernières années. Pourtant, on trouve que c'est quand même une mauvaise idée parce que vous allez nous l'expliquer, mais le pélargonium, il a plein d'avantages. Alors, pas que pour les balcons, mais on va peut-être parler d'abord balcon. C'est vrai qu'on l'associe quand même beaucoup à la culture en balcon, mais c'est une plante qui, en réalité, gagne à être cultivée. Et en tout cas, il y a une raison pour laquelle c'est une plante qui est devenue très populaire. Est-ce que vous avez comme ça deux, trois avantages à nous donner pour nous donner envie? Évidemment.
Tout à fait. Bah, déjà, un des premiers arguments, je dirais que c'est une plante facile. Rien que ça, déjà, elle marque des points. C'est vrai, c'est une culture qui n'est pas compliquée. C'est une plante qui a une floraison abondante tout l'été. Une floraison continue, donc ça va aller du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Donc ça, c'est vraiment aussi une qualité que l'on recherche. Et c'est une plante qui est peu exigeante en eau. Alors j'avoue que là, un été comme on a eu là en 2022... Un été très chaud et sec. Les pélargoniums, ils tiennent dans ces conditions. Étant originaire d'Afrique du Sud, la chaleur ne les effraie pas du tout. Donc c'est une plante vraiment, c'est une valeur sûre.
Complètement. Nous on est déjà convaincus. Est-ce que si on veut les installer autre part qu'en balcon, si on a un jardin par exemple, c'est des plantes qui s'acclimatent aussi très bien au jardin, à la terre, ou est-ce qu'il faut justement peut-être faire attention? Chez nous, à l'humidité, à des choses dont ils ne sont pas forcément originaires.
Alors oui, tout à fait. On pourra planter des pélargoniums en pleine terre. C'est tout à fait envisageable. Mais il va falloir veiller à les planter dans une situation très ensoleillée et à avoir un sol bien drainé, bien drainant, c'est-à-dire que l'eau doit bien s'évacuer. Voilà. Pas d'eau qui reste en place, il faut un sol léger et un sol assez riche quand même, évidemment, il ne faut pas un sol pauvre où il n'y a rien, il n'y a pas de nourriture, voilà. Par contre, si vous voulez planter des pélargoniums odorants, eux peuvent être plantés à mi-ombre, ils se porteront très bien,
il n'y a pas d'accord.
Voilà.
Ah bah super, c'est bon à savoir. Est-ce qu'il y a d'autres conseils pour la plantation? D'ailleurs, quand est-ce qu'on plante des pélargoniums? À quelle époque de l'année? Et est-ce qu'il y a des conseils particuliers? Alors voilà, à part on a retenu l'exposition et le sol, est-ce qu'il y a d'autres en pot par exemple? Est-ce que c'est des plantes qui deviennent très grandes? Il faut prévoir un pot de bonne taille avec un terreau particulier ou...
Déjà, pour mettre en place les pélargoniums, tout va dépendre de quelle région on habite. Parce qu'entre la Méditerranée ou le Nord-Est, on n'aura pas du tout les mêmes conditions. Alors, pour le coup, si on vient au-dessus de la... Si on habite au nord de la Loire, je préconise du coup une plantation après les seins de glace, c'est-à-dire pas avant la mi-mai, parce qu'on peut encore avoir du gel début mai. Et là, donc du coup, ce serait vraiment du travail perdu, parce qu'on risque de faire geler nos plantes. Ensuite, au niveau de la poterie, généralement, les pélargoniums se portent très bien, soit en balconnière, soit en pot. Il faudra veiller à ce qu'il y ait des trous sur les pots. Il faut que les pots soient percés pour que l'eau, je l'ai déjà dit, l'eau puisse bien circuler. Il ne faut pas de l'eau stagnante. Et il faut prévoir des pots au moins de 30 cm de diamètre, quand même assez, assez gros, parce que le pélargonium va bien se développer.
Combien ça peut faire en taille? Ça doit dépendre des variétés, évidemment, mais... Est-ce qu'il y a des très grands pélargoniums?
Ben alors, en fait, si on ne les taille pas, ça peut devenir énorme. J'en ai dans mes serres que je ne taille pas volontairement, parce que ce sont, pour le coup, là, des espèces botaniques, donc je vais essayer de me rapprocher au plus de ce qu'on peut retrouver dans la nature, mais ça, y en a, là, ils peuvent atteindre 2 mètres.
Hein. Ah oui, d'accord.
Si je n'y touche pas, c'est des arbustes, en fait. Hein, ils se lignifient, ça devient vraiment des arbustes. Donc bon, sur nos balcons, on va éviter d'avoir aussi de gros sujets, c'est pas ce qu'on recherche. Donc là, il faudra aussi une exposition ensoleillée et un terreau riche. Ça se trouve dans le commerce, hein, des terreaux spéciaux, potées fleuries.
Est-ce qu'on peut rajouter du compost si on en a à la maison ou c'est trop riche ?
Non, bah, il faudra le mélanger, voilà. Si, non, c'est une très bonne idée. Il faut un sol bien riche et fertile. Pour garantir une bonne floraison. Voilà.
Ok, et alors après, en question entretien, moi j'avais une grand-mère qui avait beaucoup de pélargonium et je me souviens que le plus grand entretien, c'était d'enlever les fleurs fanées tous les jours. Mais du coup, au-delà de ça, de la floraison et des fleurs fanées, est-ce qu'on peut parler de taille ? Parce que du coup, c'est des choses que les gens savent pas trop quand même. Et est-ce qu'il y a une époque où il faut tailler ? Est-ce qu'il faut attendre la fin de la floraison ? Et de combien on taille à peu près un pélargonium ?
Alors, je reviens sur l'histoire des fleurs fanées parce que c'est vraiment intéressant de le dire. Et effectivement, en fait, enlever les fleurs fanées, ça va permettre de stimuler la floraison. C'est pour ça qu'on enlève les fleurs fanées.
Comment on enlève d'ailleurs des fleurs fanées ? Est-ce qu'on enlève, ça paraît idiot, mais est-ce qu'on arrache comme ça les pétales ? Est-ce qu'on coupe la tige qui porte la fleur ?
Alors, on va enlever tout le pédoncule floral, c'est-à-dire qu'on va prendre jusqu'à la base de la tige. Et d'un claquement, enfin d'un geste assez rapide, ça va s'enlever tout seul en fait. Et parfois, ça tombe tout seul quand c'est vraiment fané, ouais. Voilà. Donc ça se fait, il n'y a pas besoin d'un sécateur ou voilà, ça se fait à la main très très facilement. Puis ça évite aussi que les pétales pourrissent et altère un peu à l'esthétisme de la plante.
Je précise que ça tache aussi, je me permets de t'interrompre, mais le pétale rouge du pélargonium tache le sol, si jamais vous avez des sols blancs. J'ai déjà expérimenté, mais c'est important d'enlever les fleurs fanées.
C'est vrai, c'est vrai. Ensuite, concernant la taille, bon, pour les espèces, enfin les cultivars de type zonal ou les lierres retombants, bon, je dirais tout ce qui est lierre, faut pas tailler. Voilà, ce qu'on va vraiment rechercher, c'est que notre jardinière, on ait une belle plante qui retombe en cascade, effectivement on voit en Alsace sur les façades. Voilà, c'est très très joli. Pour le zonal, parfois on peut tailler, mais je dirais c'est pas indispensable. Ce qui va être par contre très important, si on veut avoir une floraison qui perdure tout l'été et une floraison vraiment intense, c'est d'apporter un engrais au moment de l'arrosage. Voilà, un engrais qui soit riche en potassium. L'azote va apporter une croissance équilibrée, le phosphore va fortifier la plante et puis le...
On en donne tout le temps, tout le long de la floraison ou...
Alors, une fois tous les 15 jours, je dirais, c'est parfait. Selon le temps aussi qu'on a, mais bon, ça se fait à l'arrosage. Donc, quitte à arroser, autant apporter un petit peu d'engrais au passage, c'est l'idéal.
Tout à fait. Alors, on rentre doucement en hiver, il y a peut-être des auditeurs qui ont des pélargoniums. On l'a dit tout à l'heure par rapport au géranium, c'est une plante vivace mais non rustique. Donc peut-être que vous pouvez me préciser un tout petit peu vivace, rustique, vivace, non rustique, parce qu'on a toujours un peu en tête que les plantes vivaces sont toutes rustiques. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire à l'arrivée du froid, notamment dans les lieux où il va y avoir du gel lors de l'hiver, quoi.
Alors, je reviens encore une fois sur... les régions qui, effectivement, entre le nord de la France et le sud de la France, nous aurons des choses totalement différentes. La rusticité, en fait, les pélargoniums, c'est une plante vivace, mais non rustique, c'est-à-dire qu'elle va vivace, ça veut dire qu'il vit plusieurs années. Non rustique, c'est-à-dire qu'elle ne résiste pas au gel. C'est une plante qui ne supporte pas les températures, voilà, en dessous de zéro, elle va mourir.
Ouais.
Dans le bassin méditerranéen, on a rarement du gel sur des très très longues durées. Donc là, les pélargoniums, ils sont acclimatés et on peut les maintenir dans son jardin ou en pleine terre. Voilà, il n'y a pas de souci. En revanche, dans le nord de la France, quand l'hiver arrive, là, ça peut poser problème. Et là, il faut faire quelque chose, effectivement, si on veut conserver ces plantes. Donc, ce qu'il faut faire avant même que le gel arrive, c'est-à-dire là, aux alentours de je dirais mi-octobre, là, faut commencer un peu à s'affoler.
on est pile dans les temps.
On est dans les temps. Faut bien guetter son thermomètre et la météo. Et donc, ce que je conseille de faire, c'est surtout de les maintenir à l'abri de l'humidité. Parce que les facteurs à risque, c'est le froid plus humidité. Alors là, c'est fatal pour les pélargoniums, ils ne supportent pas ça. Là, ils risquent vraiment de pourrir et de mourir très, très vite. Donc, il faut les mettre à l'abri. Alors, si on dispose d'une loggia abritée, par exemple, vous voyez, alors, moi, c'est ce que je fais, par exemple, mais je suis sur Paris, donc c'est un peu particulier, il ne fait pas non plus si froid que ça. Mais j'ai des balcons qui ne sont pas abrités. Je déplace mes pélargoniums sur les balcons ou abrités, sous ma loggia. Et là, déjà, ils ne prennent pas l'humidité. Ils sont au sec et ils sont protégés. Si on n'a pas cette possibilité de faire cela, on peut également mettre un voile d'hivernage. Ça les protège aussi. Mais si vraiment nous sommes dans des régions où le gel est très très fort, le voile d'hivernage ne suffira pas. Dans ce cas, il faut rentrer ces plantes à l'intérieur, sous abri, soit dans une véranda, soit éventuellement dans un abri de jardin, un garage ou une pièce de la maison, mais qui ne sera pas forcément chauffée. Voilà. Ce qui compte, c'est de les maintenir à une température autour de 8 degrés, je dirais, ça suffit. Hors gel, en fait. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de gel et qu'il soit à l'abri de l'humidité et qu'il y ait quand même un petit peu de lumière.
Ok. Parce que ça ne perd pas son feuillage ?
Alors, ils auront quand même besoin d'une période de repos en hiver. D'ailleurs, quand on rentre ces pots, c'est là qu'il est conseillé de les tailler. On va les rabattre quasiment aux deux tiers. Il faut vraiment les tailler. Et après, vous les oubliez. Vous arrêtez les arrosages, qui ne seront du coup pas nécessaires, puisqu'on va laisser une période de repos à la plante. Et on la maintiendra du coup en hivernage jusqu'au printemps suivant. Parfois, on va retrouver au printemps déjà des tiges qui ont commencé à pousser, mais toutes palichonnes. La plante, elle a l'air un peu chétive, toute fragile. Là aussi, il ne faut pas hésiter du coup à retailler à ce moment-là. Et puis, une fois qu'on est vers les beaux jours, qu'il n'y a plus de risque de geler, eh bien, un bon rempotage, évidemment, une bonne terre bien riche. Et puis là, c'est reparti pour un tour. Et on est content quand on retrouve une plante qui redémarre. C'est toujours un plaisir.
Ah oui, complètement. Combien de temps ça peut vivre si on s'en occupe bien ?
Oh, des années.
Ouais.
Des années. Parfois même, ça se transmet justement de génération en génération. C'est ça qui est merveilleux. Mais parfois, alors ça c'est un autre sujet, mais il est conseillé de les bouturer, vous voyez, de les multiplier par bouturage.
Tout à fait, on va en venir d'ailleurs à ce qu'on peut multiplier les pélargoniums. Et alors je pense qu'il y a deux questions là-dedans, c'est comment nous on peut le multiplier, comment on peut bouturer, je pense. Et est-ce que vous, dans les serres, c'est la même méthode ou est-ce qu'il y a des semis de pélargoniums ?
Alors, pour le particulier, effectivement, la multiplication, ça sera par bouturage. Puisqu'on parle vraiment là des variétés horticoles. Donc, de toute façon, on trouvera, il n'y a pas de graines dessus. Et puis, la bouture, c'est un clone de notre pied mère, c'est-à-dire qu'on obtiendra 100% des caractéristiques. Si la plante, par exemple, a un feuillage panaché, on obtiendra une plante avec un feuillage panaché. Et donc, ça, c'est vraiment important. Pour faire une bouture, c'est très simple. Enfin, alors, généralement, ça se fait à la fin de l'été. Je dirais fin août, c'est parfait, quand les journées sont encore suffisamment belles. Et donc là, il suffit de prélever une tige avec un sécateur, un morceau de tige. Ensuite, il faut faire ce qu'on appelle une bouture de tête. On va garder que la tête de notre tige. C'est un petit peu difficile à expliquer.
On essaiera de mettre des photos. Je ne l'ai pas dit ça aussi en tout début, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de noms de variétés. On va essayer de mettre des photos sur Instagram, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vers magazine. Comme ça, on pourra mettre aussi les variétés, parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué à l'audio de montrer des choses.
Tout à fait. Et donc, Pour faire une bouture, ensuite, il faut couper sous un nœud. Le nœud, c'est l'endroit où les feuilles viennent s'insérer sur la tige. C'est l'endroit où il y a les cellules qui vont donner les racines. Vous coupez sous un nœud, il faut ensuite enlever ce qu'on appelle les stipules. Les stipules sont de toutes petites feuilles qui poussent le long de la tige. On enlève les feuilles de part et d'autre de notre tige et on va garder que les feuilles à l'extrémité. Ensuite, on repique notre bouture dans un substrat spécial multiplication. Un substrat qui doit être vraiment très très léger, alors avec un petit peu de perlite dedans. Voilà. Et puis on maintient humide et puis au bout d'un à peu près un mois, les racines commencent à se développer.
Ok.
Alors moi, en tant que professionnelle, la technique est exactement la même. On bouture à la même période. On peut tricher, évidemment, parce que sous serre, nous avons des conditions climatiques qui sont vraiment adaptées toute l'année. Donc, ça m'arrive de faire des boutures, même au mois de décembre, si j'ai besoin de multiplier une plante. Et nous faisons également du semis. Alors là, ça va concerner plutôt les espèces botaniques qui font des graines. Et là, le semis se fait généralement aux alentours de 22 degrés. Il faut vraiment une bonne chaleur de fond. Et puis, dans un terreau, pareil, très léger et bien drainant.
Combien de temps entre le semis et les premières fleurs? C'est long?
Oui, ça va dépendre des espèces, je dirais même. Parfois, en un an, on obtient les premières fleurs. Parfois, c'est plus que ça. Ça va dépendre vraiment là, des espèces.
Et nous, nos boutures, elles vont pouvoir faire des fleurs l'été d'après, si on fait...
Oui, ça va assez vite, hein. C'est l'avantage des pélargoniums, ça pousse vite, ils se développent bien et ils fleurissent rapidement.
Ok, super. Alors, les petites dernières questions avant d'arriver à nos questions habituelles. Est-ce que c'est une plante qui se consomme, le pélargonium?
Alors, pour le géranium, là, je ne sais pas. Pour le pélargonium, j'avoue ne pas avoir essayé, mais je sais qu'il y a des grands chefs cuisiniers qui utilisent les pélargoniums en infusion, en macération ou en ciselant les feuilles, donc des pélargoniums odorants. Nous avons par exemple pélargonium tomentosum qui est à odeur de menthe. Il y a des pélargoniums, donc comme je l'ai dit, capitatum à odeur de rose. Les pélargoniums, par exemple, limone fancy, donc qui est au parfum de citron. Et donc, effectivement, on peut les marier avec du poisson ou faire dans la pâtisserie la menthe avec de la fraise. Enfin, il y a des choses qui se font, mais voilà, j'ai jamais eu l'occasion d'essayer. Alors après, à titre personnel, je dirais qu'il faut quand même être assez vigilant du fait de la contenance, enfin de la concentration, en huiles essentielles, et faut avoir la main légère. On peut mettre une feuille ou deux, comme on peut mettre une feuille de laurier, par exemple, dans un plat en sauce. Là, je dirais, c'est le même principe. Il faut pas mettre des tonnes de feuilles. Une feuille peut suffire, à parfumer un plat.
Hein. Oh, bien sûr. Est-ce qu'on voit tous ces pélargoniums dont on a parlé au Jardin des Plantes?
Alors, non. Vous ne les verrez pas au Jardin des Plantes ou vous les verrez occasionnellement ou juste un échantillon. En revanche, nous avons des visites qui sont organisées à l'Arboretum de Versailles-Chevreloup. Là, nous allons mettre en place nos nouveaux programmes de visite. Et je vais d'ailleurs, faire des visites sur les pélargoniums avec des animations de démonstration de bouturage, les gestes d'entretien et d'hivernage, ce que je vous ai
dit. Super.
Donc pour ça, il faut regarder le site internet de l'Arboretum.
Pas de souci, on mettra les liens, super. Une petite question qu'on a l'habitude de poser, est-ce qu'il y a quelque chose, un livre, un documentaire ou quelque chose sur le sujet ou une exposition peut-être sur Pélargonium que vous conseillez ou une visite d'un jardin botanique peut-être qui aurait des espèces intéressantes?
Oui, tout à fait. Je vous conseille d'aller voir la collection nationale de Pélargonium que l'on peut retrouver au Parc floral de Vincennes. Ils ont vraiment là toute la grande diversité de feuillage et surtout dans les espèces botaniques. La diversité est bien, bien présente. Également, je vous conseille, et ça je l'ai déjà dit, je vous invite à aller sur les foires aux plantes pour rencontrer les professionnels qui vont vendre des variétés vraiment qui sortent de l'ordinaire. Bah, je vous invite à venir me voir également à Versailles.
Est-ce que vous avez un petit conseil ? Alors nous, on aime bien demander un conseil pour voir la vie en vert, qui est évidemment la version de la vie en rose, version nature.
Alors, un petit conseil. Alors moi, je dirais, voilà, pour le particulier qui parfois me dit « mais c'est compliqué, je n'ai pas la main verte ». Alors j'insiste, moi, je dis « mais il faut essayer ». Il faut essayer, c'est pas grave s'il y a des échecs, ça marche pas du premier coup, mais même quand on est professionnel, et c'est ça qui est important, c'est vraiment de persévérer, d'essayer, de changer des petites choses, quand ça n'a pas fonctionné, voilà, essayer à une autre période, essayer un autre substrat, essayer un autre contenant, et puis partager aussi ses conseils avec son entourage. Observer et voilà. Et puis j'insiste aussi, ce qui est important, c'est de sensibiliser aussi les enfants, hein, qui sont les acteurs de demain pour protéger la nature. Et voilà, c'est bien aussi de leur apprendre les gestes et de sensibiliser les enfants au jardinage.
Oui, tout à fait, super conseil. Merci beaucoup Lucie, on va essayer de faire au mieux pour mettre plein de photos du coup sur Instagram pour qu'on puisse mieux voir effectivement toutes les variétés, le bouturage, etc. De mettre tous les liens dont on a parlé dans l'épisode dans la barre d'infos comme d'habitude. Et on mettra le lien du conservatoire s'il y a voilà, d'autres questions pour vous au niveau pélargonium. Un grand merci, moi ça m'a donné envie de remettre des pélargoniums chez moi.
Très bien, bah, je vous remercie aussi et vive les pélargoniums.
À bientôt, au revoir.
Au revoir, merci.
Cette interview est terminée, mais restez en ligne. Maintenant, place au mémo de Vert Magazine avec tous nos conseils pour mettre facilement en pratique le sujet découvert dans l'interview du jour.
C'est parti pour un mini récap. Déjà, on ne mélange plus pélargonium et géranium. Ils sont de la même famille géraniacée, mais d'un genre différent, pélargonium et géranium. S'il y a des caractéristiques communes, c'est la raison pour laquelle on les a confondues au départ évidemment, il y a quand même deux grandes différences. Le géranium est une plante vivace et rustique, alors que le pélargonium est une plante vivace mais non rustique. Elle craint le gel. Le géranium est une plante qui vient d'Europe, alors que le pélargonium vient essentiellement d'Afrique du Sud. Ensuite, au niveau des fleurs, pour les variétés botaniques, elles ont toutes 5 pétales, mais le géranium a une fleur régulière, les 5 pétales sont identiques, alors que le pélargonium a une fleur irrégulière avec 2 pétales qui sont plus grands. D'une manière générale, ce que l'on appelle géranium a de fortes chances d'être un pélargonium. Notamment, le classique géranium de balcon à fleurs rouges que l'on voit partout est en réalité un pélargonium zonal que vous trouverez parfois sous le nom de géranium zonal. Question choix, Lucie vous conseille d'aller choisir vos pélargoniums chez les pépiniéristes spécialisés ou alors dans les foires aux plantes, tant il y a de choix. Couleur, port, forme des fleurs, odeur, est-ce que vous avez retenu qu'il y a des pélargoniums qui sentent la rose, le citron ou la menthe ? Pour la plantation et l'entretien, c'est vraiment le point fort du pélargonium et la raison pour laquelle vos grands-parents en avaient peut-être sur le balcon. Ce sont des plantes très faciles à entretenir, résistantes à la sécheresse et d'une floraison très longue. Il suffit de leur trouver un endroit bien ensoleillé, seuls les pélargoniums odorants apprécient la mi-ombre, et de les installer dans un sol léger, bien drainé et assez riche. Il faudra d'ailleurs penser à leur apporter de l'engrais spécial fleurs tout au long de l'été. Le principal conseil à retenir est de toujours supprimer les fleurs fanées pour avoir une belle et longue floraison. Enfin, comme vous l'avez entendu, c'est le moment de penser à protéger vos pélargoniums. Si vous habitez dans le sud, il n'y a sans doute rien à faire tant qu'il n'y a pas d'épisode de gel chez vous. Au balcon, vous pouvez tout de même les mettre à l'abri de la pluie afin d'éviter qu'ils ne souffrent de l'humidité. Au nord, ou partout où il y aura des épisodes de gel cet hiver, mettez vos pélargoniums à l'abri de la pluie dès la mi-octobre et pensez à les recouvrir d'un voile d'hivernage dès l'arrivée du froid. Si ça ne suffit pas, vous pouvez aussi les rentrer dans une serre, une véranda ou à l'intérieur de chez vous, tant que c'est une pièce pas trop chaude et quand même avec de la lumière. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des pélargoniums chez vous. À bientôt.
La Voie Verte, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez toutes les informations concernant l'épisode dans la barre de description et sur notre site www.vermagazine.com, rubrique podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à nous laisser un avis positif sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous souhaitez mettre un peu plus de vert dans votre vie, on ne peut que vous conseiller de vous abonner à Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers. Tous les numéros et les abonnements sont disponibles sur Vert Magazine, veirmagazine.com. Merci et à bientôt !